Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. Laurent Wauquiez et sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc, le chef des Républicains faisait sa rentrée politique aujourd'hui avec pour cible principale Emmanuel Macron. Outre-Atlantique, les hommages continuent d'affluer après la mort de John McCain. Le sénateur est décédé hier d'un cancer du cerveau, de très nombreux hommages donc à l'exception de son dernier adversaire, le président Trump lui-même, nous dira Loïc Loury. Le pape est toujours en Irlande, mais la colère gronde après les nombreux scandales de pédophilie au sein de l'Église, si bien que certains fidèles renoncent à leur baptême. C'est le cas notamment en Argentine, on y revient dans ce journal avec Aurore Jarnoux. Et nous irons en Afghanistan où la démission du chef de la sécurité afghane fait l'effet d'un coup de tonnerre. Plusieurs démissions de ministres ont suivi, toutes refusées par le gouvernement. Sur place, nous retrouvons Sonia Ghezali. Et l'inquiétude qui grandit en République démocratique du Congo, où le virus Ebola progresse, notamment dans les zones rebelles, les explications du porte-parole de l'UNICEF en RDC à la fin de ce journal. La rentrée politique se poursuit avec aujourd'hui celle de Laurent Wauquiez. Le chef des Républicains faisait aujourd'hui sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc juste après un discours devant ses partisans. Et dès ses premiers mots à la tribune, Laurent Wauquiez a décoché ses flèches en direction d'Emmanuel Macron. Le président des Républicains a interpellé vigoureusement le chef de l'État sur sa politique économique.
Qu'avez-vous fait de notre confiance? Où sont vos résultats?
Eh bien, je le dis,
il n'y a pas de résultats. Et cette première année est un échec. Nous avons depuis le début de l'année la croissance économique la plus faible de la zone euro. Même la Grèce fait mieux aujourd'hui que la France. Le pouvoir d'achat a connu sa plus forte baisse depuis 6 ans. Les dépenses publiques progressent autant que sous Hollande. Performance assez remarquable, vous le reconnaîtrez. Et nous sommes le seul pays de la zone euro à ne pas avoir réduit sa dette. Dans cette rentrée, les commentateurs nous disent « la croissance fléchit ». Et tout le monde feint de penser que ce serait une nouvelle tombée du ciel. Mais qui a étouffé la croissance? Qui a asphyxié l'activité économique qui partait pourtant sous de bons auspices? Mais c'est Emmanuel Macron qui est responsable de l'avoir asphyxié en ayant autant augmenté les impôts sur les Français. C'est Emmanuel Macron qui a pénalisé la consommation en augmentant les taxes.
En politique, toujours ce matin, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a fixé le cap pour la rentrée et qui dit croissance moins forte que prévu, dit nouvelles économies. Les prestations sociales sont dans le viseur du gouvernement, elles augmenteront moins que l'inflation. L'opposition tire à boulets rouges sur ces nouvelles annonces. Rendez l'argent aux Français, a lancé Laurent Wauquiez, tandis que Jean-Luc Mélenchon parle de saigner. Le Premier ministre, lui, assure vouloir maintenir le rythme des réformes. John McCain, un héros américain au service de son pays. Les hommages continuent d'affluer après la mort du sénateur républicain de l'Arizona. Cette figure de la politique outre-Atlantique souffrait d'un cancer incurable du cerveau. Il a disparu hier soir, entraînant un concert de louanges, à l'exception de son dernier grand adversaire, le président lui-même, Donald Trump, à New York, Loïc Loury.
Une déclaration lapidaire à l'adresse de la famille McCain, mais toujours pas un mot sur l'homme qu'il était. Donald Trump semble boudé dans son coin pendant que les hommages se multiplient. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, pour ne citer que tous ont loué l'homme d'État, le héros, le patriote et l'adversaire politique. Les proches du président eux-mêmes, sa femme et sa fille, se joignent désormais à la litanie avec moins de froideur que le milliardaire. C'était un patriote qui a servi notre grande nation avec distinction, dit ainsi Ivanka Trump. Alors pour l'instant, les Américains observent toujours le deuil. Peu de polémiques sur les plateaux, dans les journaux, autour de l'attitude du président. Les choses toutefois pourraient vite se compliquer avec les obsèques de John McCain qui devraient se tenir à la cathédrale nationale de Washington. Les anciens présidents Obama et W. Bush en effet ont été invités à prononcer des éloges funèbres. Donald Trump, lui, n'est pas le bienvenu, à l'inverse de son vice-président Mike Pence. L'image promet d'être inédite et assez préjudiciable pour le chef de l'État dans un pays très attaché à ses héros.
Le pape demande pardon à Dieu. C'était tout à l'heure en Irlande pendant une messe à Dublin. Pardon pour tous les abus sexuels de nombreux prêtres catholiques partout dans le monde. Mais pour beaucoup de fidèles, ça n'est pas suffisant. En Argentine, des milliers de catholiques tournent le dos à l'Église. Le pays d'origine du pape François connaît une vague d'apostasie, de renonciation au baptême. 3000 Argentins ont déposé leur demande vendredi au siège de la conférence épiscopale. L'Argentine, pourtant très croyante, 75% de la population se considère catholique, mais le non à la légalisation de l'avortement le 9 août dernier a créé une cassure avec une partie de la population. Aurore Jarnoux.
C'est un geste très fort. Des milliers d'Argentins veulent voir leur nom effacé des registres de l'Église catholique. Ils dénoncent son ingérence dans les débats publics, notamment celui récemment sur l'avortement. Le pape François s'est dit farouchement opposé à la légalisation et pour de nombreux citoyens, c'est une honte alors que des femmes continuent de mourir. 500 000 d'entre elles avortent chaque année clandestinement dans des cliniques où les conditions d'hygiène sont très précaires. Pour Philippe Levillain, historien spécialiste de la religion, à travers ces apostasies, les Argentins réclament une Église plus humaine.
Bon, c'est une protestation véhémente en estimant que l'Église telle qu'elle est actuellement n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de l'humanisme et de l'humanité qu'elle considère comme étant son expertise privilégiée. De plus en plus, les chrétiens eux-mêmes considèrent que le regard de l'Église doit s'arrêter au lit conjugal.
Les Argentins demandent aussi la séparation de l'Église et de l'État. Dans le pays, les salaires des évêques et l'éducation catholique sont en effet financés en partie par l'État à hauteur de 5 millions d'euros. Pour Philippe Levillain, à terme, cette revendication pourrait devenir une réalité.
Rien n'est impossible dans ce domaine. C'est probablement le début d'un éveil qui pourrait conduire à ça dans quelques années ou dans quelques décennies. Je ne suis pas prophète du tout, surtout à mon âge, mais à partir du moment où le grelot d'une telle volonté sonne, ça devrait faire réfléchir, ça fait réfléchir des deux côtés, sur l'ordre de ce qui est possible, et du côté de l'Église, et du côté de ceux qui sont grands opposants à l'ingérence de l'Église dans la vie privée.
Et cette fronde contre l'Église ne se cantonne pas à l'Argentine, elle concerne toute l'Amérique latine, pourtant très croyante.
Le Pérou assouplit un peu ses restrictions en matière d'immigration, notamment pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants venus rejoindre leurs parents. Depuis hier, les très nombreux Vénézuéliens qui fuient leur pays doivent présenter un passeport pour pouvoir entrer au Pérou, alors que jusqu'ici, seule une carte d'identité suffisait. Les Colombiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui à l'occasion d'un référendum contre la corruption. Un référendum rendu possible grâce à la constitution colombienne qui le permet en cas d'une pétition ayant recueilli au moins 3 millions de signatures. Ce fut le cas pour celle lancée par Claudia Lopez, une ancienne sénatrice. La Colombie, comme beaucoup d'autres pays, connaît une corruption d'État et une corruption de tous les jours, un mal endémique qu'une partie de la population veut combattre. Les explications de Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble École de Management.
C'est la première fois où on a une initiative qui est diffusée et disséminée au travers d'Internet et qui, je crois, est un élément nouveau pour les pouvoirs politiques. Le peuple en a marre de la corruption, il ne croit plus au discours des élites et il veut des preuves. Et Internet lui offre la possibilité d'industrialiser, de toucher un grand nombre de populations. Et c'est par ce biais qu'on arrive à ce référendum. Pour le pouvoir politique, eh bien, il va y avoir deux indicateurs. Le premier, c'est le nombre de votants. Et puis, bien évidemment, le nombre de personnes qui vont se prononcer contre la corruption. Les gens peuvent voter de manière libre par Internet, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il faut bien rappeler que c'est un nouveau pouvoir qui est en place. Et on voit qu'il y a maintenant une prise en compte des opinions publiques par rapport à ce fléau et qu'Internet permet maintenant de communiquer et de mettre une pression importante sur les élites politiques en place et on va dire ce, quels que soient les pouvoirs et les pays. Et c'est peut-être ce qui sauvera la corruption plutôt que des actes de justice où on sait que ce sont plutôt généralement des lampistes qui prennent.
Jean-François Fiorina au micro de Nadine Epstein. Une démission qui a l'effet d'un coup de tonnerre en Afghanistan. Hanif Atmar, le conseiller à la sécurité nationale, considéré comme la deuxième personnalité la plus puissante du pays, a démissionné. Il explique avoir des désaccords depuis plusieurs mois avec le plus haut sommet de l'État. Dans les heures qui ont suivi, les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Direction de la Sécurité nationale ont à leur tour présenté leur démission. Elles ont toutes été rejetées par le président Assaf Hani, le président qui a nommé un successeur au conseiller à la sécurité nationale. Les précisions à Kaboul de Sonia Ghazali.
Amnoullah Moïb assis au bureau du conseiller à la sécurité nationale. Le président Ashraf Ghani à ses côtés, entouré des ministres de l'Intérieur et de la Défense applaudissant. La photo est à la une des médias afghans. Le trentenaire, ambassadeur d'Afghanistan à Washington depuis 4 ans, a pris ses fonctions au deuxième poste le plus important du pays après celui du président. L'ingénieur en informatique de formation, sans expérience dans le domaine de la sécurité nationale, a été nommé par Ashraf Ghani pour succéder à Hanif Atmar, considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays après le chef de l'État. Sa démission a été annoncée hier. L'ancien ministre de l'Intérieur sous la présidence d'Hamid Karzai, conseiller à la sécurité nationale depuis 2015, explique sa démission en invoquant des désaccords importants en termes de méthode et de politique avec le plus haut sommet de l'État. Des différends qui durent depuis plusieurs mois, écrit-il dans une lettre manuscrite publiée sur les réseaux sociaux. Aucun consensus n'a été trouvé, ajoute-t-il. Certains affirment que les ambitions politiques d'Hani Fatmar, qui souhaiterait, selon les rumeurs, briguer la présidence afghane l'année prochaine, sont derrière cette démission ou ce limogeage forcé, une démission qui intervient après un cycle de violence en Afghanistan et notamment une attaque revendiquée par l'organisation État islamique mardi dernier, au cours de laquelle une trentaine de roquettes ont été tirées sur le palais présidentiel et le quartier diplomatique à Kaboul.
Et toujours en Afghanistan, le chef de Daesh dans la région aurait été tué, annonce des services de renseignement du pays. Saad Arabi est mort hier soir avec 10 de ses hommes lors d'une frappe aérienne conjointe des forces afghanes et américaines. Il était à la tête de l'organisation État islamique en Afghanistan depuis un peu plus d'un an. Nouveau limogeage en Iran. Le Parlement iranien a voté aujourd'hui l'éviction du ministre de l'économie et des finances, Massoud Karbassian. C'est un nouveau revers pour le président Hassan Rouhani, dont le gouvernement est confronté à une grave crise économique depuis le retour des sanctions américaines. À Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi.
Massoud Karbassian est le second ministre du gouvernement à être limogé par le Parlement en quelques semaines. Début août, les députés avaient déjà limogé le ministre du Travail, un autre fidèle du président Rouhani. Ces limogeages par le Parlement interviennent alors que l'Iran est plongé dans une grave crise économique avec une baisse vertigineuse de la monnaie iranienne qui a perdu plus de 70% de sa valeur depuis un an. La sortie des États-Unis de l'accord nucléaire en mai dernier et le rétablissement des sanctions économiques américaines début août ont accentué la crise économique qui a provoqué une hausse importante des prix de tous les produits. Le gouvernement du président Rouhani est critiqué pour ses erreurs économiques alors que les affaires de corruption font la une de tous les journaux. Les députés ont prévenu que si le président Rouhani ne changeait pas lui-même ses ministres, ils les limogeront par des motions de défiance. Le président est lui-même convoqué devant le Parlement mardi. Pour sa part, la justice a multiplié ces dernières semaines les arrestations parmi ceux qui avaient profité des systèmes d'importation en recevant de la part du gouvernement des dollars à un taux préférentiel avant de vendre leurs produits sur le marché noir 2 à 3 fois plus cher. La justice organise également des procès publics pour les personnes accusées de corruption économique.
445 morts, c'est le nouveau bilan des inondations en Inde dans l'état du Kerala. 28 corps supplémentaires ont été découverts lors de la décrue, 15 personnes restent portées disparues. 1 million de personnes sont toujours dans des camps temporaires à cause d'une mousson particulièrement violente. Les dégâts sont pour l'instant estimés à 3 milliards de dollars. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa officiellement investi aujourd'hui. Le nouveau président a prêté serment après plusieurs semaines de controverses sur les conditions de son élection le 30 juillet dernier. Une élection frauduleuse selon l'opposition qui avait manifesté le 1er août et dont la répression avait fait 6 morts. Le nouveau président a promis une enquête. Ebola progresse dangereusement en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a fait part de ses inquiétudes vendredi, car le virus se trouve désormais en zone rebelle dans le nord de la province du Nord Kivu. Il est donc beaucoup plus compliqué à soigner. Yves Wilmot est porte-parole de l'UNICEF en RDC et il constate que l'épidémie poursuit sa progression en touchant notamment les plus jeunes.
Le nombre d'enfants qui sont infectés ou qui sont affectés par la maladie est beaucoup plus élevé qu'elle ne l'était lors de l'épidémie précédente dans l'ouest du pays, du côté de la province de l'Équateur. Nous sommes d'autant plus préoccupés qu'il y a un nombre aussi important d'enfants qui se retrouvent orphelins d'Ebola ou qui se retrouvent non accompagnés parce que leurs parents se retrouvent dans des centres de prise en charge Ebola et ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. C'est pour ça qu'en tant qu'UNICEF, nous mettons en place des réponses particulières au niveau psychosocial qui garantissent l'accompagnement de ces enfants, éventuellement la recherche de familles d'accueil et l'assistance psychologique ainsi que matérielle de ces enfants.
Peter Salama, le directeur général adjoint de l'OMS, dit « Nous sommes à un moment charnière ». Vous diriez la même chose ?
Aujourd'hui, de le nord du Kivu et l'Ituri, il y a plus de 2000 personnes qui sont vaccinées. Il y a un rythme de vaccination qui est de l'ordre de 400 par jour aujourd'hui. Il est clair que si nous parvenons à maintenir ce rythme et si nous parvenons à accéder à tous les cas, nous pouvons espérer de contrôler la propagation de l'épidémie.
Yves Wilmot au micro de Mathieu Laurent. La météo pour demain, du soleil au sud, du Poitou jusqu'au Grand Est, vous aurez un ciel chargé avec parfois de la pluie. Au nord-ouest du pays, malgré quelques nuages, les éclaircies seront bien là et le soleil sera de plus en plus présent au fil de la journée. Pour les températures, il faut compter de 16 degrés au nord à 18 au sud demain matin. Ça remontera un peu l'après-midi avec 29 à Lyon, 22 à Paris, 31 à Bordeaux, 21 à Lille et 27 à Ajaccio.